J'appelle chaos au monde le choc actuel de tant de cultures qui s'embrasent, se repoussent, qui s'embrassent, excusez-moi, se repoussent, disparaissent, subsistent pourtant, s'endorment ou se transforment lentement ou à vitesse foudroyante. Ces éclats, ces éclatements dont nous n'avons pas commencé à saisir le principe ni l'économie et dont nous ne pouvons pas prévoir l'emportement. Le tout-monde qui est totalisant n'est pas, pour nous, total. Et j'appelle poétique de la relation ce possible de l'imaginaire qui nous porte à concevoir la globalité insaisissable d'un tel chaos monde, en même temps qu'il nous permet d'en relever quelques détails, et en particulier de chanter notre lieu, incontournable et irréversible. L'imaginaire n'est pas le songe, ni les vidées de l'illusion. Voilà Rudy Siller.
Dans ces 3 mois, en l'éternité, ces marins ont été en l'aile infinie l'océan. Ils arrivaient connaître tout sens perdu. Ils arrivaient savent qui n'ont là, l'asile Zéduya, tenu débord. Ça n'a pas souffert. Nom l'on l'aile en mer, qu'a payé pour payer à qui wainea. La paix 40 belles sans même quitter l'aide, et qu'a peuplé l'en mer, et puis cathédrale qui a clairé. Ça, c'est bénédiction. Hein. Il 45 a dans sable nouveau, ça qui en vente et ténèbres ici pour là-bas. Traverser 3 longues tala. 3 jours. 3 jours que l'on te dit. 3 jours. Et mon cabazote antenne 9. 12 octobre 1492. L'angle t'est jeté. Face en grand bois. En bas, en soleil qui a pété. Traverser. Traverser soude. Les grands longues nuits, ténitaille et des raisonneries taille. Les étoiles qu'a jugé, il se silence. Il ne peut pas qu'à simier frégate là en les ciels bléa, qui qu'a glorié à dans la wanchim et qu'a vini blé ou ben frégate là à soulan mea. Pièce chim pas qu'a trahi bout tête sillage li. Traversé. En la terre bisuit, grindé et l'en misé, et que c'est toujours minuit passe léa. Peut pas courir. Adam grand viré derrière prend couri. Nom l'an, ka chile en bas voile là. Il ka couri bas vent. Il ka weye, plus chaud, ka crié, ka boudonné, plus serré qui flamme mort à là. Ou ben, kon ko femme ta là. La flamme l'an yé a actuellement. Viré pou plat, mare voile là, on nous boit de l'eau douce là. Et qu'on nous jete en l'an mea, et puis de l'eau douce là. Ça qui le wè, là c'est bon dia ka aller. Faudrait nous paie poison, hein, parce que ces éclairs invisibles nous ont joué. Casser ces chaises-là. Jeter ces provisions en l'enméa. Ça nous a aller chercher les aînes. La personne pas savent si Zeb a poussé pour bouche nous, pour l'envie boue nous, pour seul plaisir nous, à dans grand volonté, bon Dieu, là. Mais ça qui paie, là, il se nomme l'enmé, jouer les aînes. 1492, grand découvreur qui a défié l'Atlantique, yo ka cherché les aînes, et puis yo chanté à ka levé. Ça aussi qui en vent et qu'après jour nouveau tala, jouen rêve yo, et que perdit li, ou ben vive li. Parole prophète, c'est parole vivant. Ça qui partit l'Espagne et Portugal, dans celle l'envie, l'or, et zépis, mais soldat, et sorcier aussi. Paul l'a dit qui là-bas, t'es jacobin et corsé. Et que nègla y fait yon fouette, y juste y seigneur. Li qui te wè rivé, palan met tout voile, en vont même yon te paret, et que dit tout saint l'ouverti, t'es esclave, et que libérate Haïti. Mais, fodo sa ba moua sans li, mi poa, la ka bamboule, paol la ka vini vri, rêve la ka réalisé. Nom l'an pejes la. Même si c'est lui qui déclarait. En les jeunes, quand ils sonnent toute cloche grand départ, ah, violon les reins avec vent, ah, dans l'envie, avec pressé parti, l'enclin a rendu l'eau, avec l'envie mort, il faudrait s'atterrir par l'autre bol en mai. Bah, ici, ah, c'est celle en mai contre l'eau bénie, pendant l'assemblée capée et capoutée. Mamay, koute, ek pa pepe, parol mwen pote, se parol ka leve, pou mwen ki sa wè, jiska mache epi l'histoire. Nom lan, si sponges la, ek chima dan l'omen, i di, kombata la, teni l'omè, bondye, soleil ek san, ek lò benyen san, teni premier place, ek derezon ritay. Ek yon di, nou se ish l'omè, ek chim, i di, nou an le bordaj l'omè, nou pou s'assemble, ek epi sel la fos parol nou kriye, zekle, konsel volonté nom l'omè. I di, bordaj l'omè apoko sav ki les chim, sakriman ou ben defolman. Personne pas save pied touni en les sab touni pour qui les en yo ka lever et louanger et ça qui capitaine ta là veglé et puis vent au ben diamant li parole li en les bordage l'enmer ka mandé parti bien parti et la Dieu tout zanma konnèg la en les mon nan ka annoncer pour l'arrivée en bel bateau forme neuf et casserole forme la Rochelle et casserole fait blanc il dit Li ki soufè en ballon men la bé, son mi ek piment, pliché tout vivant, men bato a, es yo pa wè rive pa botche a, kakarese et pi vwèl mouye la, peyi kon ek lan moa. Le apoko vini, la nuit dévotion ou ben la nuit grand tourbillon, zaka vini konsel lan men, ek non pa en ballon men la bé son mi sal, ki ka boule la chè, ek fouve l'esprit monte en fetay ma a. Malè par en les sab talagis, par en les sab l'en metalagis si haut, qu'on pour racher à dans chaque blesse, chapitre l'histoire pour qu'on connaître. Les haines, c'est comme ça. Et puis non cloué à sous des raisons qui l'en met ouais jour. Il faut côté où on prend couler, les grands hommes, l'autre bord soleil levé, et dit qu'a tremblé. L'avant poussé, c'est les aines. Yo te kapriye ciel, ek bon Dieu yo te serré en l'anmè yo, pou yo si men parole li tout patou, ek yo pati. Sa ki te l'anmè, sa ki te chim, es yo te sav si parole yo pa te ka mo adan tchèk tout, ou li won sa yo même te konèt. Lontan parole nom mo bo l'hôtel, même sans y sav, ki sa même ki l'hôtel. Ek l'en met à la. Et si yo pa te comprenne, il te ka tombe en l'infini, juste en infini. Ek yo wè premier feuille. Yo tout wè ki l'en met ka bokoy, deye dokoy, ki te ish, et puis pied mango, la soie, zépis, venel. Mais eti zépis la te ye, eti la soie te ye. C'est ça ou ka mande actuellement. Et tout moun kriye, ka di l'an men, se guerriez, ka goumen, et puis toute la force courage li, ka même manje koy même. Konnèg da la, chante a zadinon yi, pliché, tout vivant. Li, adan barik foudray li, il te ka pale epi la ligne, ka défié piment lan la ba. Et trois fois sans coup de fouet sacrificiel oua, ka wè fom ou vezye yi fom milio en lè soleil la te nef ta la. Et que c'est pâté de l'eau salée. L'envie moa qui te ka tchembe en mitan la rel passion ilan. Pa en lè l'en met à la, il te ka wè longe kou en denye l'envie a. L'en met a, sa van. Pa ki sens. Ou ka koumanse sav de raisonner en homme ek méchanceté douvan bel Fidji. Kombe yo ye? Et qui tout connaît quoi yo a sous bordage l'enmer ich l'histoire bon jeune grand louvet cloche sonné parole jeune fille ka ali ka marcher par botchea yo ni nom yo a bord des raisonneries ça qui a mort pas save il ka fouiller l'horizon en ka dit jusqu'côté exama débria cordage là toute bagaille ka louanger et crier c'est fia ka ri kon non la prière et silence Grand silence non mitan l'anmè. C'est l'histoire qu'a ouvert koy pendant bordage l'anmè a ka saigné.
1492, le voyage de Colomb vers les Indes occidentales. Voilà, Édouard Glissant, cher maître, double maître. Ça soit derrière la table.
Tout d'abord, je dois dire mon admiration à Rudy Siller pour sa lecture de ses extraits des Indes. J'ai redécouvert le poème sous un autre angle. Et ceux qui, parmi vous qui savent, comprennent le créole, peuvent apprécier l'extraordinaire travail et l'extraordinaire talent de Rudy Siller sur le texte. Ce texte créole, à partir d'un texte français, en langue française, va me permettre de, pour amorcer une discussion avec vous, va me permettre d'énoncer quelques lieux communs que je pratique depuis pas mal d'années à propos des langues. Et je crois qu'il faut aborder la question sous l'angle de l'écriture. Parce que les langues sont d'abord orales, c'est sûr, mais c'est à partir de l'écriture que on commence à, des pratiques d'écriture qu'on commence à comprendre ce qui se passe dans l'enfermement des langues. Ça m'est agréable d'en parler maintenant. Parce que j'ai un exemple de langue parlée qui devient langue écrite, le créole martiniquais, et comme le créole guadeloupéen, comme le créole haïtien, comme le créole guyanais. Et il faut revenir à cette question de l'écriture pour passer ensuite au stade de l'oralité. Il y a eu l'oralité originelle, puis l'écriture comme enfermement, et à nouveau aujourd'hui l'oralité comme ouverture. Et ce mouvement-là est intéressant parce que, bien entendu, le stade de l'écriture a laissé des témoignages que la période originelle de l'oralité n'a pas laissé. L'écriture comme enfermement, écriture comme enfermement d'une communauté. C'est dans son écriture que une communauté généralement manifeste le plus durablement son identité. Ce que cette communauté produit en matière de sculpture, d'illustration, de peinture, d'architecture, etc., est moins immédiatement reçu et reconnu comme témoignage de son identité. Tandis que l'écriture est dès l'abord la manière pour une communauté de s'enfermer sur elle-même, c'est-à-dire de se distinguer des autres. Et l'écriture se confond avec la langue à ce moment, parce que la langue, c'est ce qui distingue une communauté des autres communautés. Rappelez-vous le proverbe « Dis-moi quelle langue tu parles, je te dirai qui tu es ». C'est-à-dire que pendant longtemps, on a cru que la langue était le signal même et de l'identité et que l'écriture était la manifestation la plus durable de cette marque, de cette identité. Mais ce qui est intéressant, c'est que en même temps qu'une communauté se distingue des autres communautés, d'abord par sa langue et ensuite par son écriture, surtout dans les sociétés occidentales, bien sûr, puisqu'il y a de grandes régions du monde où l'écriture n'existe pas, hein, en tant qu'elle serait liée à une langue autochtone. Ce qui est intéressant, c'est que cette langue qui permet à une communauté d'essayer de se distinguer des autres communautés, c'est-à-dire de s'enfermer dans une identité, cette langue est aussi le moyen par lequel cette communauté essaie aussi d'être en contact avec le monde, d'être en contact avec la totalité du monde. Parce que une communauté se considère comme distincte, mais une communauté ne peut pas ne pas se considérer comme reliée au monde. Il n'y a pas d'exemple de communauté qui ignore la possibilité du monde comme entité ou comme unité ou comme totalité. Et par conséquent, la langue a cette double fonction absolument contradictoire d'enfermer la communauté dans son identité. Les Anglais de la langue anglaise, les Français de la langue française, etc., etc. Et puis, en même temps, d'ouvrir l'imagination du monde. Et ça, c'est deux fonctions absolument contradictoires. Et qu'est-ce qui permet pendant longtemps, en particulier aux cultures occidentales, de réaliser cette de passer outre cette contradiction, c'est la notion d'universel. La notion d'universel est créée pour permettre de passer d'un particulier de l'enfermement à un contact avec le monde dans sa généralité. C'est ça l'universel. L'universel, c'est ce qui permet de transformer, disons, des valeurs particulières en valeurs proposables à tous. Par conséquent, l'écriture devient une espèce de propension à sublimer, à transcender des valeurs et à les rendre généralisables, ce qu'on appelle universel. Cette fonction de l'écriture est liée immanquablement à l'exercice de la langue et d'une langue. Et pendant tout ce temps, la langue que l'on parle, on la considère toutes les langues européennes, par exemple, pendant un temps assez long, les Français considèrent que la langue française, il n'y a pas mieux. Les Anglais considèrent que la langue anglaise, il n'y a pas mieux. Les Espagnols aussi, les Italiens aussi, les Allemands aussi, les Russes aussi. croit que pendant très longtemps, dans les aristocraties de ces pays, la langue française est considérée comme une langue de transport, de rapport, surtout dans les milieux de l'aristocratie. Mais il y a un infini enfermement de la langue sur elle-même. Un Anglais du XVIIe siècle ne conçoit pas la langue française. Et un Français du XVIIe siècle ne conçoit pas la langue anglaise, même s'il la connaît. Je dis toujours, et ça c'est la vérité, que j'ai été, quand j'étais jeune élève, j'étais stupéfait de découvrir que les critiques français du XVIIe et du XVIIIe considéraient Shakespeare comme un sauvage, et que les critiques anglais du même temps, XVIIe, XVIIIe, considérait Racine, la littérature de Racine, comme une littérature de femmelette, absolument sans intérêt, etc., etc. Or, ça, ce n'est pas une méconnaissance littéraire, c'est une méconnaissance linguistique, c'est-à-dire que c'est une méconnaissance de la langue de l'autre. La méconnaissance de la langue de l'autre fait l'enfermement dans sa propre langue. Ce qui fait que la notion d'universel, il y a un universel français, il y a un universel anglais, c'est pas le même. Et pourtant, la notion d'universel, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un universel, des valeurs universelles, etc., etc. Mais si on gratte un peu, on voit que ce n'est pas vrai. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Les choses changent à partir du moment où les spiritualités et les cultures sont mises en contact les unes avec les autres, se touchent, se repoussent, s'attirent, se combattent dans une totalité monde. Et les choses changent pour des raisons multiples. La première, c'est que les contacts des langues entre elles démultiplient les langues. Pas seulement parce que des mots d'une langue entrent dans une autre, ça n'a aucun intérêt. Par exemple, à partir de l'invasion de l'Angleterre par les Normands, la moitié des mots de la langue anglaise, la moitié des mots du français entrent dans la langue anglaise. Et inversement, au XIXe siècle, une grande partie des mots de la langue anglaise entrent dans la langue française. Mais ça n'a aucune importance, parce que ça ne dérange pas et ça ne perturbe pas l'unité interne de chacune de ces langues. Et on se demande à un moment, mais alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui perturbe? Qu'est-ce qui une langue? Qu'est-ce qui fait qu'une langue travaille sur elle-même et change? Si ce n'est pas l'apport de mots ou d'expressions etc., qu'est-ce qui fait qu'une langue devient inextricable? Qu'est-ce qui fait qu'une langue devient... On ne peut plus lui appliquer des règles visible et compréhensible. Parce qu'on ne peut plus appliquer de règles visibles et compréhensibles aux langues. Qu'est-ce qui fait ça? Ce qui fait ça, c'est que les langues, dans le contexte de la totalité monde aujourd'hui, non seulement sont en contact les unes avec les autres, mais sont en contact avec la totalité. C'est la chose nouvelle qui envahit les langues. C'est-à-dire que ce soit une langue écrite ou une langue orale, aujourd'hui, toutes les langues sont en contact avec la totalité monde. Et ça, c'est extraordinaire du point de vue de l'existence d'une langue. La langue, non seulement elle n'est plus enfermée dans les limites de la communauté et de la spiritualité ou de l'intellectualité ou de la géophysique ou de la communauté, mais elle est en contact avec une totalité monde qu'elle est obligée à la fois d'imaginer par l'imagination et d'imaginer par l'imaginaire. Et ça, c'est une condition absolument nouvelle de la situation des langues qui fait qu'on dépasse aujourd'hui considérablement les notions d'écriture et les notions d'oralité. Qu'est-ce que ça veut dire imaginer par l'imagination et imaginer par l'imaginaire? Imaginer par l'imagination, c'est étant donné un lieu où l'on est, concevoir d'autres lieux ailleurs. Et ça, les langues l'ont pratiquement toujours fait. Les poètes, en tout cas, l'ont toujours fait. Les poètes ont toujours imaginé d'imagination le monde ailleurs. Mais aujourd'hui, la langue aussi imagine d'imaginaire le monde. C'est-à-dire non pas seulement ce que d'autres lieux sont, mais ce que sont les rapports entre tous les lieux possibles. Et ça, c'est une chose compliquée. Quelqu'un est venu me voir tout à l'heure et m'a dit... Bon, je vous ai écouté à la radio, c'était fantastique. J'ai acheté votre livre, mais là, alors là, c'est difficile. On ne comprend rien. C'est pas pareil. Et j'ai dit, bon, ouais, mais c'est fait exprès, c'est fait pour ça. C'est Michel Butor qui disait, quand on lui disait vos livres sont incompréhensibles, il disait c'est pas moi qui suis complexe et incompréhensible, c'est le monde. Le monde est complexe et incompréhensible. Et alors, si je vous explique le monde d'une manière claire et évidente, il y a quelque chose qui se perd dans l'imaginaire que j'ai du monde. Il y a quelque chose qui se perd. Je vous fais croire que le monde est simple et compréhensible, alors que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de concevoir le monde comme simple et incompréhensible. Donc, ce qui se passe, c'est que la chose difficile à imaginer, c'est l'imaginaire, justement. C'est-à-dire la relation fondamentale, non pas la réalité des lieux que je peux imaginer, n'est-ce pas ? Je peux rêver que je suis à Valparaiso ou à Samarcande, ou etc. Je peux rêver ça, c'est l'imagination, etc. Mais la relation entre Valparaiso, Samarcande, Avignon et Fort-de-France, c'est là que l'imaginaire joue et c'est là que ça devient inextricable et incompréhensible et pourtant nécessaire à être. Et là, les langues aujourd'hui, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient orales, sont obligées de passer par cet inextricable. Là, et ce qui se passe, c'est que, par exemple, je peux entendre une langue étrangère, là, vous avez eu l'exemple, ne rien comprendre et comprendre quand même. N'est-ce pas ? C'est ça l'inextricable. Et par conséquent, nous allons apprendre de plus en plus à avoir une nouvelle relation aux langues. C'est-à-dire que nous allons développer en nous une intuition des langues qui ne sera pas une compréhension ni une connaissance des langues, mais qui sera une divination des langues. Parce que les langues ne seront pas seulement un enfermement, les langues, ce seront un système de relations entre tout et tout. Et de plus en plus, nous allons arriver à ça. Et je répète tout le temps, c'est toutes les banalités qu'on dit, mais les banalités sont des vérités. Je répète tout le temps que nos enfants ont déjà une divination des langues que nous n'avons pas. Et parce qu'ils sont entrés dans le nouvel inextricable du monde, alors que nous, nous disons encore « Ah, on ne peut pas comprendre, c'est difficile, etc. etc. » Nous en sommes encore à essayer de comprendre, alors qu'il faut déjà deviner. Et la nouvelle fonction de relation des langues, c'est une fonction de divination. Et l'exemple qu'on a eu, enfin, on va discuter, mais l'exemple qu'on a eu là, je suis sûr que vous avez compris quelque chose du texte sans rien comprendre. Tout le monde croit qu'on comprend le créole, etc., mais ce n'est pas vrai, on ne comprend pas le créole. Vous avez compris quand même. Parce qu'il y a quelque chose que vous devinez et qui est de l'ordre de l'inextricable. Seulement, vous acceptez que ce soit de l'inextricable quand c'est une langue que vous ne connaissez pas, mais vous n'acceptez pas que ce soit de l'inextricable quand c'est votre langue. Or, c'est ça qui est dans la fonction de la littérature d'aujourd'hui. La fonction de la littérature aujourd'hui, c'est de montrer que dans la langue qu'on utilise, dans la langue qu'on connaît parfaitement, il peut y avoir de l'inextricable. Et que cet inextricable-là, il faut l'accepter comme une des conditions d'existence des langues aujourd'hui. Et par conséquent, la langue change de fonction parce qu'elle entre dans un domaine aujourd'hui. Elle entre dans un domaine qui est un domaine de plurilinguisme. Le fameux proverbe « Dis-moi quelle langue tu parles, je te dirai qui tu es » n'a plus aucun sens. Parce qu'il y a des millions de gens dans le monde aujourd'hui qui sont élevés dans une, deux, trois langues, qui à 4 ans parlent 3 langues. Et alors, quelle langue tu parles ? Je ne parle pas une langue, je parle 3 langues. Donc, qui tu es? Je suis 3, comme la Trinité. Et par conséquent, ce proverbe n'est plus vrai. La condition de la langue, c'est le plurilinguisme. C'est pourquoi j'ai dit, souvent, j'ai écrit, j'écris en présence de toutes les langues du monde. j'écris en présence de toutes les langues du monde, ça ne veut pas dire que je les connais. Je ne connais que la langue française et la langue créole. Je parle un peu anglais, espagnol, italien, d'accord. Mais je ne les connais pas. Je connais ma langue maternelle, la langue créole, et ma langue d'expression, la langue française. Mais j'écris en présence de toutes les langues du monde. Elles entrent toutes dans l'inextricable de mon écriture. Et elles entrent toutes dans l'inextricable de ma divination du monde et du fait que j'imagine le monde par l'imaginaire autant que par l'imagination. Ce plurilinguisme fondamental fait que aujourd'hui, la traduction d'une langue à l'autre ou d'une langue aux autres est un phénomène capital de la littérature. Et la traduction apparaît comme un genre littéraire aussi bien que le roman ou la poésie ou le théâtre, etc. Quel que soit ce qu'on traduit et quelle que soit la langue vers laquelle on va, et la traduction apparaît comme un système de référence qui est absolument autonome et qui n'a pas un corpus de règles, mais qui a un corpus de divination. Et cette importance de la traduction est encore plus grande quand par exemple, il s'agit d'un texte qu'on a écrit soi-même et qu'on entend traduit dans une langue qui est sa langue maternelle. Il y a là quelque chose de fantastique. Hein? J'écris dans ma langue d'expression, c'est la langue française, et puis on traduit le texte dans ma langue maternelle. N'est-ce pas? Quand elle est traduite en japonais, je ne peux rien dire. Hein? Quand je reçois mes traductions en japonais, je ne reconnais même pas mon nom. Sur le livre. Je cherche mon nom et je ne le trouve pas. Mais quand on traduit un texte dans sa propre langue, j'entends dans ma langue maternelle le texte que j'ai écrit dans ma langue d'expression. C'est-à-dire que là, il y a un inextricable invraisemblable. Et un inextricable qui est je me tromperais en croyant que c'est simple, que c'est évident, que j'ai tout compris. Il y a des choses que je n'ai pas comprises. Ce n'est pas que je ne comprends pas le créole, c'est que je ne comprends pas le phénomène de divination qu'il y a à passer du français au créole. Je le comprends, mais il y a des endroits où c'est obscur. Et alors, ces endroits obscurs sont les plus intéressants et les plus précieux. Et il ne faut pas hésiter à considérer que ce qui, d'une langue, nous échappe est ce qui est le plus précieux pour nous. C'est ce qui, d'une langue, nous paraît simple et clair, c'est ce qui est peut-être le moins précieux. J'enseigne beaucoup, j'enseigne depuis 50 ans, et quand mes étudiants me disent « Ah, monsieur, on a compris », je leur dis « Méfiez-vous. Si vous me dites que vous avez compris, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. » Parce que la condition de l'humanité aujourd'hui, c'est l'inextricable et que vous devez vous habituer à l'idée que l'inextricable peut se désintriquer, mais que ça ne se fait pas comme ça, avec des règles et avec des principes, etc. Notre divination du monde ne passe pas par une série de raisons, mais passe par une série d'intuitions. Et il faut, en matière de langue, revenir à l'intuition et penser que les langues sont aujourd'hui plus que jamais non seulement le signe de notre identité et de notre communauté, mais aussi le signe, sans que ce soit aujourd'hui contradictoire, le signe de notre rapport au monde. Notre rapport au monde et notre rapport à nous-mêmes et à notre communauté ne sont plus des contradictoires, parce que nous concevons le monde et la totalité monde non plus comme des universels,